And I won more premierships alone than the other 19 managers together.
Brésil ou pas, Ronaldinho, machin chouette.
Je vous aime, vous comprenez? Je vous aime. Je vous aime parce que vous êtes des dignes représentants d'un sport, d'une corporation.
Bonjour à tous et toutes, bienvenue dans cette seconde émission du 12e homme. J'accueille Thomas et Jean, bonjour à vous deux.
Bonjour.
Aujourd'hui, émission spéciale, on parlera de deux journées de Ligue 1 en première partie d'émission pour deux fois plus de plaisir. Les analyses des membres de l'équipe sur la Ligue 1, suivies de nos top flops des 18e et 19e journées de Ligue 1. On voyagera ensuite en Angleterre et en Italie, et nous finirons notre tour du football au Pays Basque. En fin d'émission, on évoquera la situation de notre équipe locale, le Pau FC. Tout d'abord, petit point sur les résultats de ces deux dernières journées de Ligue 1. Mercredi dernier, peu de matchs en jeu, mais deux larges victoires pour deux équipes de milieu de tableau. Toulouse écrase Auxerre 5-0, déplacement réussi pour les Toulousains. Et Nice s'impose 6-1 devant son public, l'effet d'Igard sur la Côte d'Azur. Enfin, match pour l'Europe en Bretagne où Lorient et Monaco se neutralisent de partout. Concernant la 19e journée de Ligue 1, Nantes plonge le MHC un peu plus dans la crise en s'imposant 3-0 à Montpellier. Strasbourg crée la surprise et bat Lyon 2-1 au Parc OL. Marseille confirme sa bonne forme et domine Lorient 3-1. Monaco pulvérise Ajaccio 7-1. Et enfin, Rennes fait chuter Paris et gagne devant son public 1-0. Peu de changements dans le classement. Paris, Lens et Marseille constituent le podium du championnat, mais le PSG lâche à nouveau des points. Monaco et Rennes se disputent la 4e place, tandis que Lille vole la 6e place de Lorient. Dans la zone rouge, Angers est toujours bon dernier, Auxerre et Ajaccio toujours relégables, tandis que Strasbourg dépasse Brest à la différence de but et sort la tête hors de l'eau. On commence donc notre tour de l'actualité du championnat français avec Jean. Jean, aujourd'hui tu as choisi de parler de Strasbourg qui sort à peine la tête de l'eau, un match nul contre Lens et une victoire à Lyon. La dynamique est-elle en train de s'inverser à Strasbourg ?
Peut-être. Lundi dernier, le Racing Club de Strasbourg prenait la grosse décision de limoger son entraîneur Julien Stéphan. Décision difficile avant une semaine plus que difficile, la réception de Lens, deuxième, qui a battu le PSG, et le déplacement à Lyon, qui était obligé d'avoir un résultat. Alors, l'entraîneur Mathieu Lescornet avait pour but de redonner des couleurs aux Strasbourgeois. Et rapidement. Car c'est ça la mission d'un entraîneur intérimaire, redonner confiance et insuffler un vent de révolte. La révolte, mercredi, elle a eu lieu. Mais je pense qu'elle n'a pas eu lieu dès le coup d'envoi, où j'ai trouvé un Racing très reculé, jouant en permanence vers l'arrière. Je pense qu'elle a eu lieu à la 11e minute, quand Claude Maurice slalome dans la défense et s'en va marquer le but du 1-0 pour Lens. À ce moment, Strasbourg s'est libéré avec la grosse frappe de Prezic, et 3 minutes plus tard, le but de Gamero en larmes au moment de célébrer, ce qui témoigne de la grosse pression mise sur les joueurs de la Méno. Malheureusement, 2-2, mais un bon point pris face au deuxième du championnat. Puis ensuite, face à Lyon, Strasbourg n'était pas en premier plan, mais j'ai envie de dire, on regardait plus les gones. Les Strasbourgeois se sont montrés décomplexés à l'image de cette grosse frappe soudaine de Aoulou, et puis solidarité défensive comme un vent de révolte retrouvé. Cela a aussi peut-être engendré ce facteur chance, comme le deuxième but ou encore l'arrêt miraculeux de Cels en fin de match. Face à Lyon, je pense que le meilleur n'a pas gagné, mais c'est les points qui comptent. On promettait à Strasbourg cette semaine le cauchemar, je dirais pas le rêve, mais au moins l'espoir d'un maintien retrouvé pour le Racing.
Alors Thomas, est-ce qu'à Strasbourg, est-ce qu'on coule ou est-ce qu'on va se maintenir en fin de saison ?
Bonne question. Alors déjà, je pense qu'après la saison que Strasbourg a faite l'année dernière, une grosse saison, ils échouent aux portes de l'Europe, peu de personnes s'attendaient à ce que cette année, ils luttent pour la relégation. Je dois vous avouer quand même que, personnellement, je m'attendais un peu à une saison compliquée pour Strasbourg, parce que c'est un peu ce genre de petit club, entre guillemets, qui une saison est au top et la saison d'après, ils reviennent un peu dans leur standard. On peut voir l'exemple de Toulouse, par exemple, en 2006-2007, qui se qualifie en Ligue des Champions, et l'année d'après, quasiment avec le même effectif, lutte pour le maintien toute la saison. On voit donc cette ambivalence entre surperformance, sous-performance, mais je pense que le niveau de Strasbourg vraiment se trouve entre les deux, c'est-à-dire entre la 8e et la 15e place. C'est donc Julien Stéphan qui en a fait les frais, qui a laissé la place, comme tu l'as dit, à son adjoint, qui pour l'instant, on va pas se mentir, fait plutôt bon travail. Maintenant, de là à parler de renouveau, je ne sais pas si ça va être possible, il va falloir attendre sur le long terme, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils ne pourront pas faire pire.
Ouais, ça va être difficile pour Strasbourg avec 4 descentes cette année, mais il y a de quoi être optimiste. On parlait justement des changements d'entraîneur depuis le début de la saison. Il y a un record de changements d'entraîneur, je crois. Thomas, virer son entraîneur, c'est la solution miracle pour les clubs de Ligue 1.
Vous connaissez tous l'expression « l'amour dure 3 ans ». Ben, on peut dire qu'en Ligue 1, l'amour entre les présidents et les entraîneurs dure encore moins longtemps. En effet, si on regarde l'étude du CIES, Centre International d'Études du Sport, on voit que la durée de vie moyenne d'un entraîneur dans le monde du football est de 40 matchs, soit en Ligue 1 environ d'une saison, ce qui est très très peu. L'étude montre qu'entre 2015 et 2019, les clubs de Ligue 1 ont changé en moyenne 3,4 fois l'entraîneur, ce qui est juste énorme. Et le club qui détient la palme de ce record, je vous laisse deviner, à votre avis.
C'est Lille.
Bravo. En effet, bien joué. C'est Lille qui a changé 8 fois d'entraîneur sur cette période, et même plus maintenant avec le passage de Galtier à Gourvennec et de Gourvennec à Fonseca. Alors vous allez me demander pourquoi je vous parle de ça. Ben, tout simplement parce que cette année on assiste à un record avec 9 entraîneurs virés en seulement 19 journées, et cette saison pourrait bien battre le record de la saison 2004-2005 où on a eu 11 coachs limogés. On peut noter quelques exemples cette année comme Auxerre, Brest, Troyes, même Lyon et Nice. Alors on pouvait s'y attendre à cause de la particularité du championnat qui est coupé en deux avec la Coupe du Monde au Qatar en hiver, ce qui offre une deuxième chance au club mal en point. Tout cela fait que les présidents ne vont pas prendre de risques avec 4 descentes, mais attention tout de même au limogeage abusif et non calculé. Parce que si certains ont eu la chance d'avoir une trêve pour retravailler les principes de jeu, certains n'ont pas eu cette chance, comme à Brest où Éric Roy vient d'arriver, ou à Nice et Strasbourg qui ont viré l'entraîneur après une élimination en Coupe de France il y a une semaine. Alors la question qui peut se poser, c'est est-ce que ça marche vraiment de changer d'entraîneur en cours de saison ? À noter que la plupart du temps, c'est souvent des équipes de bas de tableau qui changent d'entraîneur. On peut prendre l'exemple de Toulouse avec Pascal Duprat qui a fait une remontée folle, mais on peut également prendre l'exemple de Saint-Etienne l'année dernière avec Pascal Duprat où ça n'a pas marché, même si je pense qu'à Saint-Etienne, le mal est un peu plus profond. Aujourd'hui, ils sont relégables en national. Hein. Pour l'instant, ce que l'on peut dire, c'est que les effets des changements d'entraîneur cette saison ne se font pas trop ressentir, avec derrière des positions qui n'ont pas trop bougé. Sauf pour Reims, où là, il y a clairement un gros plus. Pour Nice, Strasbourg ou Lyon, j'attendrai encore un peu avant de pouvoir juger. Tout cela me mène à dire que, oui, les présidents ont une obligation de résultat. Que oui, il y a parfois la pression des supporters, mais qu'il faut absolument laisser aux entraîneurs le temps et les moyens de développer leur projet de jeu, car cela ne se fait pas en 6 mois, même si parfois ça peut aller très vite, comme on a pu le voir à Marseille l'année dernière avec Sampaoli, et cette année avec Tudor. Si on prend l'exemple d'Arteta Arsenal, qui fait des débuts vraiment catastrophiques, et qui là, après avoir tenu le coup, et après avoir posé les bases de son jeu et renouvelé l'effectif, parvient à faire de belles choses, et se bat pour le championnat. Alors s'il vous plaît, messieurs les présidents, laissez le temps aux entraîneurs.
Pour toi Jean, est-ce qu'il faut absolument changer d'entraîneur quand ça va pas, ou est-ce qu'il faut, comme a dit Thomas, laisser du temps aux entraîneurs et véritablement attendre?
Ah oui, je suis d'accord avec Thomas. Je pense que j'ai du mal à comprendre ces changements d'entraîneur incessants. En fait, c'est à chaque fois que l'équipe est en fait une mauvaise forme, hop, on va changer d'entraîneur. Les supporters sont pas contents, ils vont changer d'entraîneur. Enfin, des fois, je pense pas que c'est que la faute de l'entraîneur. Il faut aussi les joueurs quand même qui sont peut-être pas très bons.
Bah,
et aussi, moi, j'ai du mal aussi à comprendre les entraîneurs qui reviennent. Enfin, qui change. Je pense qu'il faut des entraîneurs quand même avec une forte énergie, comme Pascal Duprat. Je trouve que c'est, enfin, on la caricature un peu comme ça, comme l'entraîneur pour sauver les équipes qui sont pas bonnes. Moi, des fois, on refait venir des entraîneurs qui, je pense, qu'ils sont pas bons pour cette période pour le club, pour essayer de le sauver sur un maintien. Donc, moi aussi, laissons du temps aux entraîneurs quand même, et voilà.
Ouais, c'est vrai que prendre toujours les mêmes entraîneurs, on voit des Comboiré qui viennent, qui font 10 clubs en Ligue 1,
oui, voilà.
des Duprat pareil qui font 15 clubs en Ligue 1.
Les pompiers de service, comme on les appelle.
Voilà. C'est horrible.
Même là, Strasbourg, là, ils parlent de Sabri Lamouchi. Je suis pas très convaincu par Sabri Lamouchi. Après,
on parle même de Dervé Renard à Nice pour remplacer Didier Digard.
Dervé Renard, je sais pas. Ouais, bon.
Voilà, donc on va clôturer notre page Ligue 1 qui va se refermer avec nos top flops. On commence avec la 18e journée. Moi, personnellement, j'ai été impressionné par la victoire 6-1 de Nice, qui joue pour la première fois au football depuis 6 mois. En revanche, mon flop, c'est Angers, 10e défaite d'affilée. Ça sent la Ligue 2. Jean, t'es top flop ?
Mon top de la 18e, c'est le carton plein de Toulouse. Victoire 5-0 à Auxerre contre un concurrent en maintien. Toulouse grimpe et commence à prendre ses distances avec la zone rouge. En flop, là, c'est Ajaccio, qui a perdu à domicile face à Reims. et qui, bon, on devait pas le dire, mais qui prend 7 buts quand même face à Monaco. Journée compliquée, semaine compliquée pour la CA.
Et toi, Thomas, t'as retenu quoi de cette 18e journée de Ligue 1?
Bah, mon top, c'est le match Strasbourg-Lens. Je pense que mercredi soir à la Meno, on a assisté sûrement un des plus beaux matchs de la saison entre les deux Racing. Il y avait tout dans ce match. Il y avait du jeu, de l'intensité, une très belle ambiance comme d'habitude à Strasbourg. Et on n'a pas remarqué que c'était le dauphin du PSG qui jouait contre l'avant-dernier, avec, comme j'ai dit, d'intensité. Et dès les premières minutes, on a senti que le match allait complètement fou. Hein. Claude Maurice qui marque le premier but lensois, et 5 minutes après, Strasbourg menait 2-1, avec donc le but de Persic et de Gamero. Mais Openda va égaliser. La seconde mi-temps, elle est un peu plus calme avec des lensois dominateurs, jusqu'à la 70e minute, grosse minute du match, où on a une double occasion, un double face-à-face, ou entre Cels et Openda et Gamero et Samba. Le match aurait pu basculer. Cels d'ailleurs va faire plusieurs arrêts encore, notamment une tête de Sotoka à bout portant et la parade sur Da Costa. Bref, un match nul, mais très beau match nul qui empêche Lens de poursuivre après avoir battu le PSG, qui a peut-être été victime d'une petite décompression inconsciente après avoir battu le PSG. Pour le flop de cette journée, tu l'as dit Jean, Auxerre a pris 5 buts contre Toulouse et l'arrivée de Pélissier sur le banc n'a pas vraiment changé grand chose. Ils ont affronté une belle équipe de Toulouse en effet, mais dans le jeu Auxerre, ils sont en grande difficulté avec un gardien qui traverse une très très mauvaise phase de sa carrière avec 100 buts encaissés en un an, Benoît Costil. On peut voir aussi les tensions entre certains supporters et les joueurs. À la fin du match, on a eu droit à des explications avec le capitaine d'Auxerre. Bref, je vois vraiment pas comment Auxerre va pouvoir s'en sortir cette année.
On poursuit avec les top flops de la 19e journée. Jean, est-ce que tu t'es régalé ce week-end ou pas?
Oui, je me suis régalé, comme toujours, en Ligue 1. Le top, la 6e victoire de suite de Marseille, solide et agréable à regarder. Marseille s'avance pour la course à la Ligue des Champions et pourquoi pas au titre. Puis la 19e journée, les supporters lyonnais... non, pardon, je me suis complètement... oui, 6e victoire... donc Marseille et le flop de la 19e journée, c'est les supporters lyonnais qui devaient prendre exemple de ce supporter de Quevilly-Rouen en Ligue 2, tout seul, torse nu, en parkage à Metz. Les supporters lyonnais ont pour moi tout fait, sauf supporter. Il y a débat sur ce sujet, mais moi je vois pas comment Toko Ekambi peut jouer sereinement avec sa tête sur une banderole avec écrit « Dégage ». Je sais pas, moi c'est pas la même notion de supporter.
Thomas, il s'est passé quoi dans ton canapé ce week-end?
Ah, il s'est passé plein de choses, mais au niveau du foot, il s'est passé Kolasinac, qui a fait un super, super match contre Lorient. J'ai voulu mettre en avant, parce que quand il est arrivé sur la Canebière, on se demandait mais pourquoi Marseille est allé le chercher. Il n'avait pas trop le profil pour s'intégrer au système de l'OM. Hein. On ne savait pas trop s'il allait jouer soit dans l'axe gauche de la défense ou... sur le piston gauche. Et malgré un début de saison assez compliqué et une énorme occasion manquée contre Tottenham que tous les supporters marseillais ne sont pas prêts d'oublier, il faut admettre que Kolasinac est de plus en plus l'homme de la situation. Pour mon flop, on parlait des supporters à Lyon, on va parler aussi de Montpellier. Attention, Montpellier coule en silence. Sur les deux derniers matchs, Montpellier a pris 9 buts, 6 contre Nice et 3 ce week-end donc contre Nantes. On a bien vu que dès le début de la saison, ça va être compliqué avec Dalloglio. Il a été viré. Son adjoint est arrivé à la trêve, Romain Pitot, et on voit qu'il n'y a aucun effet. D'ailleurs, à mon avis, il devrait vite partir, Romain Pitot, pour laisser la place à l'entraîneur expérimenté. Donc ce week-end, Montpellier a perdu. Ça, c'est pas nouveau. Ils ont perdu sur leur terrain, et les supporters montpelliérains se sont fait remarquer en balançant des fumigènes sur la pelouse, avec une interruption du match pendant plus de 15 minutes, et avec quelques banderoles insultantes envers les joueurs. Je ne vous dirai pas s'il y avait marqué dessus, j'ai pas envie d'être censuré. Donc Montpellier va devoir se réveiller pour ne pas avoir la gueule de bois et se réveiller au mois d'août en Ligue 2 parce qu'à ce rythme-là, ils y vont tout droit.
Alors moi, ce week-end, il y a un joueur qui m'a surpris, c'est Ben Yedder, qui claque un triplé lors de la victoire 7-1 de Monaco, alors que pendant 6 mois, là, il était au placard. Donc très belle performance de Ben Yedder et de Monaco. Mon flop cette semaine, c'est Lyon, tout comme Jean, mais moi, pas les supporters, moi c'est l'équipe Lyon avec sa défaite qui nous prouve une fois de plus que l'Europe, ça sera pas pour cette année pour les Gones. Vous écoutez bien le 12e homme sur Radio Campus, votre émission d'actualité footballistique. Retrouvez-nous tous les mardis soirs. On vous fait maintenant voyager en Angleterre et je vous amène avec moi à Londres, où Chelsea fait un mercato fou, ou plutôt des mercato fous. Passé sous pavillon américain, le club pourrait Cependant, continuer sa politique d'empilement des joueurs, avec la récente signature de Mudryk, jeune pépite ukrainienne, pour pas moins de 100 millions d'euros, après avoir également signé Benoît Badiachil pour 40 millions d'euros, alors qu'on avait signé Wesley Fofana cet été pour 80 millions d'euros. Chelsea signe une multitude de joueurs en tout genre, qu'ils soient confirmés ou non, comme des Aubameyang, des jeunes prospects. Je sais pas vous, mais moi, j'ai comme l'impression que sortir le chéquier, pardon, et empiler les joueurs, ça fonctionne pas vraiment. Thomas, toi, t'aimes la politique de transfert de Chelsea? Est-ce que tu te dis ça, c'est des beaux mercato?
Pas du tout. Déjà, Chelsea avait déjà basculé dans une autre dimension avec le rachat en 2003 par le russe Roman Abramovich, avec lui aussi, qui a fait des mercato complètement fous, avec beaucoup de flops, comme Werner, Lukaku, plus récemment. Mais avec, comme tu l'as dit, Chelsea est passé sous pavillon américain avec la guerre en Ukraine et la vente forcée d'Abramovich. Et je me suis amusé à regarder un peu ce qu'avait fait le propriétaire américain depuis qu'il est arrivé. Mais en fait, il a fait n'importe quoi. Déjà, il vire Tourelle. Ouais. Je pense que ça, c'est une très mauvaise
grosse erreur. Ouais.
Et j'ai regardé quelques recrues. Alors, on peut noter Sterling, Koulibaly, Cucurella, Fofana, comme tu l'as dit, ou Aubameyang. Et j'ai calculé, ça fait environ 250 millions de livres. Alors, là, il n'y a pas tout le monde. Hein. Mais en plus, ce n'est pas fini. Il faut rajouter le mercato de cet hiver avec Badiachil, comme tu l'as dit, Joao Félix qui arrive en prêt.
Oui, j'ai oublié, oui.
Mais un
oui.
prêt payant, donc ils vont payer. Et en plus, le dernier coup de tête, Mudryk, comme tu l'as dit, qui est là pour, à mon avis, ils l'ont surtout pris pour le piquer à Arsenal, oui. Pour 100 millions d'euros. Chelsea est en train de passer pour le pigeon de l'Europe. Et apparemment, ce n'est pas fini. Parce que d'après les dernières infos, Nkunku devrait arriver à Chelsea pour 60 millions d'euros. En fait, j'ai l'impression que les Américains, ils font ce qu'ils ne peuvent pas faire chez eux avec le football américain, c'est-à-dire dépenser à tout va, parce que là-bas, le football américain, est très réglementé.
Toi, Chelsea, Jean, ça t'évoque quoi?
Bah, moi, je suis du même avis que vous. Moi, trop de stars, tue les stars. Enfin, y en a trop, il y a beaucoup trop de... On se perd complètement dans le mercato de Chelsea. Quand je vois même au milieu de terrain, il y a Hakim Ziyech qui est perdu, il joue plus, on ramène des stars. Mudryk, franchement, je sais pas trop ce qu'il vaut.
100 millions.
Ouais, 100 millions.
100 millions. Ah, c'est un bon petit joueur, mais
pour Chelsea. Joao Félix aussi, je sais pas trop pour. Enfin, moi j'aime pas trop Joao Félix, après c'est subjectif, ouais. Mais bon, je sais pas trop ce qu'il va apporter. Enfin, ils sont 10e, ils ramènent je sais pas combien de gens, les gens vont devoir s'adapter au système, s'adapter à l'entraîneur, donc je pense pas que ce soit la bonne solution d'amener plein de gens comme ça, d'amener plein de joueurs. Attention Chelsea quand même.
Donc voilà, Chelsea va donc continuer à être le pigeon de l'Europe. Et d'Angleterre, on file en Italie, où une équipe s'est réveillée dans la ville du Vésuve. Le Napoli, club de toute une ville, réalise une saison exceptionnelle. Et c'est Thomas qui nous en parle.
Est-ce qu'après plusieurs échecs consécutifs à la 3e ou 2e place entre 2015 et 2019, le Napoli va-t-il parvenir à décrocher le Scudetto? Je ne voulais pas trop le dire, attendre encore un peu avant de m'enflammer, mais après la raclée infligée à la Juventus ce week-end 5-1 et l'énorme avance de 10 points sur son dauphin, je suis obligé de vous le dire, oui, le Napoli sera champion d'Italie. L'équipe de Luciano Spalletti, qui lui aussi a beaucoup échoué sur la deuxième marche du podium avec la Roma, est en train de surdominer la Serie A cette année et de montrer également de belles choses en Ligue des Champions. Alors, qu'est-ce qui me fait dire tout ça avec autant d'assurance? Bah déjà, un effectif qui est très complet, orné par Victor Osimhen avec 12 buts, Cavaracella et son nom imprononçable, mais aussi ses dribbles fous, devant avec aussi au milieu de terrain un petit joueur par la taille mais immense par le talent, Lobotka, accompagné de l'ancien Marseillais Zambo Anguissa qui est partout. Puis je ne vous parle même pas du banc, hein. Des fois il y a des Politano, des Lozano qui s'assoient sur le banc, ça ferait rêver plus d'un club. Ensuite, le jeu produit par l'équipe qui joue un calcio, comme on dirait en Italie, ne peut être qu'admiré par beaucoup, avec une intensité, des appels et des mouvements assez fous, ce qui d'ailleurs en fait la meilleure attaque de Serie A avec 39 buts. Et enfin, des stats, qui sont quasi toutes en la faveur des Napolitains, ils sont premiers partout. Si vous regardez le nombre de points par match, ils sont sur une moyenne de 2,59 points par match, ce qui les amènerait à 93 points en fin de saison s'ils tiennent ce rythme, ce qui est énorme dans un championnat où on voit une telle compacité entre les équipes de tête. Je peux vous citer quelques stats qui montrent cette domination. Par exemple, c'est l'équipe qui tire le plus par match, avec en moyenne 17 tirs. C'est aussi l'équipe qui réussit le plus de passes par match, avec 85% de réussite. Et ce n'est pas uniquement des passes latérales, c'est aussi des passes qui gagnent de mètres, c'est-à-dire des passes vers l'avant. C'est l'équipe qui touche le plus de ballons dans la surface adverse, et de loin, de très très loin. Alors on aurait pu croire avec la défaite face à l'Inter lors de la reprise que le Napoli allait lâcher, mais pas du tout, ils nous l'ont fait comprendre en détruisant la Juventus vendredi. En plus, ils sont encore lancés dans tous les tableaux, que ce soit en Coupe, mais aussi et surtout en Ligue des Champions, où le Napoli pourrait créer la surprise. Moi je vous le dis, le Napoli de Spalletti a tout d'un champion et d'un grand champion, et attention à la saison record avec pourquoi pas un triplé historique en vue, et si cela devait arriver, la cité du Vésuve risquerait d'être en feu.
Jean, le Napoli, champion d'Italie.
Bon, on peut quitte croire, en tout cas 10 points d'avance, 5-1 contre la Juve, je croyais pas trop, mais quand même un Osimhen en feu, et il se réveille parce que enfin, au début c'était pas fou, après il est comme là, il fait une saison exceptionnelle, aussi inquiétant pour la Juve quand même, qui prend quand même 5-1, aussi. Alors qu'ils avaient pris 0, ils avaient pas pris de but, je pense, pendant je sais plus combien de matchs, mais bon, une belle surprise, et content quand même pour Naples, belle ville du foot.
Ouais, ouais, c'est la renaissance d'une équipe. Donc Naples a tout pour finir sa saison en beauté. Maintenant, Jean va nous amener pas très loin d'ici, en plein milieu du derby basque entre l'Athletic Bilbao et la Real Sociedad. Dis-moi, ce derby, il déplace des foules ou pas ?
Bien sûr qu'il déplace des foules. Allons de l'autre côté de la frontière, dans le Pays basque espagnol, pour parler du derby du week-end. Real Sociedad, Athletic Bilbao. Ce derby opposant San Sébastien à Bilbao est le symbole du foot et de l'indépendance basque. Bilbao et l'équipe faisant jouer uniquement des joueurs basques, c'est leur grande particularité. Un match politique, car c'est un match qui réanime le débat de l'indépendance basque avec tous ces ikurriñas, qui sont les drapeaux basques, qui brandissent dans les villes et le stade. Mais ce match avait aussi une importance sportive. En effet, la Real Sociedad pouvait prendre les distances avec l'Atlético Madrid, 4e, et talonner le Real de Madrid, et ainsi poursuivre leur course vers la Ligue des Champions, et en prime, laisser sur le carreau quand même Bilbao, ce qui est toujours plaisant pour une équipe comme ça. Donc, Anoeta en feu, qui accueillera d'ailleurs en mars prochain notre fabuleux club bleu et blanc en rugby pour y affronter les Béarnais. Voilà, ça c'est dit. Et les joueurs de la Sociedad connaissaient l'enjeu et sont rentrés rapidement dans le match, ont été conquérants et ont étouffé cette équipe de Bilbao qui aura cédé à la 25e minute sur un premier but des bleus et blancs et puis un slalom du japonais Kubo plein de détermination 10 minutes plus tard. Oyarzabal mettra le troisième but et après un carton rouge pour chez les rouges et blancs. Victoire 3-1, la Real Sociedad s'assume comme un candidat très sérieux à la Ligue des Champions avec plus 7 points sur l'Atlético, 4e, et peut semer même le trouble dans la course au titre.
Toi, Real Sociedad de Bilbao, Thomas, ça te fait rêver ?
Un peu. Non. Oui, c'est un gros match. J'ai pas grand-chose à rajouter. Juste quelque chose qui me marque, moi, c'est, comme tu l'as dit, la politique du club de l'Athletic Bilbao qui va à la totale encontre du foot mondialisé d'aujourd'hui avec une politique de transfert inédite. À noter aussi que l'Athletic Club Bilbao, avec le Barça et le Real, fait partie du club des trois qui ne sont jamais descendus en deuxième division. Et ça place un club.
Donc Jean, tu nous conseilles d'aller voir le prochain Real Sociedad Bilbao ou pas ?
Bien sûr, il faut aller le voir. Ouais. Ouais.
Si on peut se déplacer, il faut y aller. Puisqu'on était au Pays Basque, on effectue un tout petit trajet pour prendre des nouvelles de notre équipe paloise. Donc un match nul, 0-0 à domicile face à Grenoble. Match frustrant avec beaucoup d'imprécisions devant la surface et le but. La victoire était à la portée des Palois face à une équipe de Grenoble qui, clairement, se satisfait du nul. Ensuite, courte défaite face à Bastia ce week-end, 1-0. Pau est 15e. Attention à la zone rouge, qui n'est plus qu'à 4 points. Il faudra se ressaisir face à Annecy en championnat dans 2 semaines. Mais avant ça, rendez-vous dimanche pour un 16e de finale de Coupe de France à Lille. Bonne chance au Pau FC. C'est déjà la fin de cette émission. Ce week-end, c'est Coupe de France. Pas d'émission la semaine prochaine. On se retrouve donc dans 2 semaines, mardi soir. Merci à vous, Thomas et Jean. Merci d'avoir écouté le 12e homme. Bonne soirée à tous et à toutes.
Bonne soirée.
Bonne soirée, merci à vous.